Need the bleeding sky. I called your name. There was no one there. And in the cold and snow, I saw your face. Then we sang a song.
Sophie Mazet, professeure d'anglais depuis 9 ans au lycée Auguste Blanqui, à Saint-Ouen, aux portes de Paris, nous accueille dans son atelier d'autodéfense intellectuelle, dans lequel elle donne aux élèves des armes pour affronter le monde qui les entoure. Vous avez mis en place ce cours d'autodéfense intellectuelle. Est-ce que le titre vous est venu naturellement ?
Non, le titre m'est venu pas du tout naturellement. C'est une expression de Noam Chomsky qui a dit « Si nous avions un vrai système d'éducation, on lui donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle. » Donc je lui ai écrit pour lui demander si ça ne le dérangeait pas que j'utilise son expression et que je le prenne un peu au pied de la lettre. Et il a dit que ça ne le dérangeait pas. Il m'a répondu en 2 heures. Et il a 94 ans à l'époque, il avait un peu moins. Et il m'a dit « Non, je suis très honorée, allez-y, faites-le. »
Bonjour, je m'appelle Sherazade, j'ai 17 ans et je suis au lycée Auguste Blanqui. Je pense qu'il s'appelle Autodéfense intellectuelle parce que c'est un atelier qui nous permet de nous créer nos propres armes par rapport à ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut lire ou voir.
Une année, en cours d'anglais, j'avais essayé de faire une sorte de blague à mes élèves. J'avais trouvé un journal qui s'appelle The Onion et qui est un journal satirique qui a inspiré le Gorafi. Avec des faux articles, mais qui sont construits exactement comme des vrais. Donc j'avais dit à une classe de terminale L, qui était plutôt d'un bon niveau, je leur avais dit, voilà, dans chaque séquence qu'on va faire, chaque thème, il y aura un faux texte que j'ai trouvé. Je l'ai glissé dedans, et c'est à vous de le trouver. Et ils n'en ont pas repéré un seul pendant l'année. Même le dernier, qui était un faux discours de Barack Obama, qui se terminait par « fuck you ». Et donc là, ils ne l'ont pas du tout trouvé. Donc j'ai été très surprise, et en réalité, je me suis rendu compte que le problème, c'était qu'ils me faisaient confiance, un peu trop, puisqu'on s'entendait vraiment bien, il y avait une bonne relation dans cette classe. Et du coup, je me suis dit, mais il faut vraiment que je les aide à ne pas croire n'importe quoi, en fait, puisque si j'avais voulu leur raconter n'importe quoi sans leur dire, j'aurais très bien pu, vraiment. Et la deuxième origine, c'était que un jour, en fin d'année, ma collègue de lettres histoire m'a arrêtée pour me dire, samedi, on va au Rwanda. Et en fait, elle avait organisé un voyage scolaire avec des élèves de première et quelques-uns de mes élèves de terminale pour travailler sur le rôle des médias, justement de la radio-télévision d'Émile Collin, dans la préparation au génocide. Et donc, deux accompagnateurs ne pouvaient pas venir à la dernière minute. Donc, on m'a dit, tu vas remplacer au Rwanda. Donc, je ne connaissais rien du tout du Rwanda. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte de l'importance des mots et de la possibilité d'une propagande, comme en atteste le nombre peu élevé de cas de résistance au Rwanda. Et je me suis dit, en fait, on est tous sensibles à de la propagande, qu'on soit éduqués, pas éduqués, qu'on était à l'école, pas du tout. On est tous sensibles, on est tous vulnérables. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour nos élèves? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour nous-mêmes, en fait? Parce que c'est lié, c'est pas que pour les élèves. Et après, l'épisode du Rwanda, en fait, c'est devenu non pas seulement intéressant et utile, mais urgent et nécessaire. Et ça fait 5 ans, et je ne me suis pas arrêtée.
Pas avoir d'esprit critique, c'est parfois c'est très dangereux parce que on reste campé sur une position, on va pas plus loin, et du coup, parfois, on peut être amené à penser d'une manière totalement erronée et dangereuse, oui. Et il faudrait des cours comme ça pour apprendre aux élèves à savoir se poser un temps quand on regarde l'actualité ou quand on lit quelque chose, pour mieux aborder les autres et le monde aussi, je pense.
Je m'appelle Ange et j'ai 18 ans. Les cours d'autodéfense intellectuelle, on ne peut pas vraiment dire qu'on étudie, mais on apprend de façon autonome. Ça nous fait acquérir des connaissances qui pourront nous servir dans la vie de tous les jours.
Contre quoi vous vous défendez en fait?
Pas dit contre tout. Par exemple, quand une personne vient comme ça, elle a un couteau devant toi, c'est pas 100% sûr que quand tu vas parler avec tes mots, qu'elle va s'arrêter, elle va dire non, je vais pas te tuer. Mais plutôt avec le quotidien, tous les jours, comme le racisme, les langues de mauvaise augure ou encore les insultes, les bagarres.
Les séances, elles sont très variables. Il y a des séances qui sont plus magistrales, comme celle d'aujourd'hui, où les élèves participent, mais il y a quand même pas mal d'informations que j'essaie de leur donner. Et il y a des séances plus en forme d'atelier, où quand on travaille sur l'argumentation, on va faire, par exemple, un procès fictif. On va travailler sur la rhétorique. D'abord, on a travaillé sur des arguments. Quels sont les types d'arguments qui existent? L'argument de l'appel à la pitié, l'appel au peuple, l'appel à l'ignorance, l'argument d'autorité. Je leur ai donné quelques exemples. Et ensuite, je leur ai donné une situation, ils ont choisi un personnage d'une histoire et je leur ai dit, voilà, c'est votre client. Vous êtes une équipe d'avocats, moi je suis le juge, on a des jurés, il y avait des gens qui étaient là. Donc vous allez faire les avocats, vous allez défendre en utilisant les arguments qu'on a appris avant. Puis ils voulaient gagner parce qu'il y avait un paquet d'œufs en chocolat Kinder à gagner, donc ils étaient tous comme des fous. Quand les jurés ont déclaré que les œufs Kinder seraient répartis entre tous les élèves et que l'acquittement général était déclaré, les élèves n'étaient pas du tout contents parce qu'ils voulaient vraiment gagner l'argumentation. Et ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Non, mais on fait appel. » Il y a la séance où on va travailler sur les manipulations mentales. Et en fait, le titre de la séance, c'est « Créer votre propre secte et devenez gourou charismatique ». Donc là, on va faire une secte. Donc des fois, c'est un petit peu plus pratique. Ils ont des feuilles où ils écrivent, voilà, ils font leur secte. On va créer des théories du complot aussi. Donc ça dépend vraiment des cours. Mais j'essaie quand même de leur donner pas mal d'informations théoriques. C'est ce que je vous ai marqué là, c'est « À quoi sert le langage ?» À quoi ça sert les mots ? Et c'est pour ça que la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est « Est-ce qu'on peut tuer des gens avec des mots ?» Alors la réponse est oui, vous avez déjà trouvé la réponse. La réponse est oui, effectivement, puis on va voir comment ça a été fait. Ce truc-là qu'on voit pas très bien, c'est les fonctions du langage selon un linguiste qui s'appelle Jacobson, qui a dit à quoi sert le langage. Alors le langage, il peut servir, c'est ce qu'on appelle la fonction référentielle, il peut servir à décrire le monde, à donner une information. Ça, c'est la fonction la plus utilisée. C'est la fonction de base, en fait, quand vous décrivez le monde. Donc je vous ai mis un petit exemple. Si je perds l'élection, j'arrête la politique.
Nicolas. Les mots sont dangereux. Un nouveau, c'était un livre de George Orwell. C'était dans un futur lointain. En Angleterre, par exemple, on parlerait une nouvelle langue, c'est après la nouvelle langue, où les mots seront réduits. Et le fait d'avoir réduit les mots, on aurait une généralisation des mots. Cette généralisation des mots-là est très dangereuse parce que, à force de réduire les mots, il n'y aura plus de mots, il n'y aura plus de vocabulaire. Un peu de grammaire. Vu que les mots sont importants, ça enlève toute la chose en fait de réfléchir par soi-même.
Vous voyez où ils veulent en venir là. Vous avez mis le doigt sur un truc intéressant. Il n'y a pas forcément l'option.
Il y a gris aussi.
Oui, il y a gris aussi. Voilà. Il n'y a pas que noir ou blanc, il y a aussi gris. Mais sauf que là, dans cette langue, ça n'existe plus. Et du coup, à quoi on arrive avec ça?
Alors, ça s'est déroulé en deux temps. On a d'abord travaillé sur les connotations, les dénotations. Qu'est-ce qui se cache derrière un mot? Et le premier exercice que j'ai donné à faire aux élèves, il y avait une phrase à compléter. C'était « Assis à côté de moi est un ou une » et ils devaient compléter. Et donc là, on a eu des alors plus nationalité, un plus fille ou garçon, un plus mec assez cool. Et donc du coup, ça les obligeait à voir comment ils voyaient la personne assise à côté d'eux. Je leur ai demandé ensuite « Et moi, je suis un ou une quoi ?» Et donc on a vu comment on essayait de définir les gens et comment souvent ces définitions elles étaient réductrices. On a travaillé sur la réduction et l'expansion de la langue et on est arrivé donc au premier exemple qui était la nouvelle langue, George Orwell, sur plus une langue est pauvre en fait, moins elle permet d'appréhender une réalité, plus la réalité et la pensée sont restreintes.
Pourquoi vous avez choisi de travailler sur le langage? Parce que vous travaillez aussi sur les sectes, vous travaillez sur les théories du complot. Pourquoi le langage pour vous c'est important de passer du temps?
C'est la base, c'est la plus petite unité le langage en fait. C'est-à-dire que les sectes elles utilisent un langage, elles utilisent des arguments et des mots. Les théories du complot utilisent un langage aussi, donc c'est vraiment la formation de base le langage. On commence par ça.
Est-ce que vous parlez d'actualité de façon très brute avec vos élèves?
Alors, je ne dis pas que je le ferai jamais, mais j'essaie justement d'avoir ce recul minimum. Bruxelles, c'était il y a 3 jours, donc je ne considère pas que là, moi, j'ai une autorité quelconque pour avoir trouvé des choses dans les médias. J'ai travaillé, depuis 3 jours, j'ai passé mon temps à bosser, ce qui veut dire que je n'ai pas eu physiquement le temps de collecter des articles, de collecter des choses intéressantes. Finalement, je préfère prendre ce temps de la réflexion, y revenir quelques semaines ou quelques mois après, ça me paraît peut-être plus productif que ce qui peut se dire à chaud.
Comment t'expliques que certains jeunes tombent dans les théories du complot, tu peux le comprendre ça?
Ah, je peux absolument le comprendre. Il y a un moment quand j'étais au collège, je crois, j'avais lu un truc sur les théories du complot et j'ai voulu m'approfondir dessus parce que quand je trouve un truc, je m'accroche dessus parce que je trouve que ça fait peur. Et le fait d'avoir peur, ça nous incite à aller voir encore plus. Et le fait d'avoir encore plus dans les théories du complot, ça se crée un cercle vicieux. Le moteur de recherche va nous envoyer vers encore plus de théories du complot. Et j'ai commencé à avoir des vomissements parce que ça me faisait tellement peur que j'arrivais pas à dormir la nuit. Quand on a appris, par exemple, le cours d'autodéfense intellectuelle, contrer ce genre d'argument pour dire non, ça c'est pas possible parce que en ce temps-là il y avait ci, en ce temps-là il y avait ça. En plus de ça, c'est pas logique parce que ça c'est ci, ça c'est ça, c'est tout.
Comment tu le décrirais le monde qui t'entoure ?
Très complexe, très complexe. Enfin, c'est vrai que c'est court, mais c'est mon idée quoi. Je trouve que c'est très complexe. C'est très difficile de le comprendre totalement. Notamment à cause des nouvelles technologies, d'Internet, de l'information qui se transmet super vite et tout. On a besoin d'ateliers comme ça. Et oui, le monde, il est très complexe, le monde dans lequel on vit actuellement.
Il y a une spécificité, c'est que c'est la première génération qui s'informe premièrement sur Internet. Alors, je fais passer un questionnaire en début de cours chaque année. Et là, cette année comme l'année précédente, j'ai eu les sources d'information des élèves sont premièrement Internet, avec beaucoup les réseaux sociaux et Snapchat. Je ne savais pas forcément que c'était une source d'information. Mais apparemment, ça le devient. Twitter, Instagram aussi, qu'ils voient comme une source d'information. Et en deux, les chaînes d'info comme BFM TV. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et quand j'en parle avec eux, c'est la première génération qui s'informe premièrement sur Internet et premièrement par vidéo. Après, ça, dans 25 ans, bah, ça va changer. C'est-à-dire qu'eux s'informeront par Internet, leurs enfants, etc. Donc tout le monde s'informera comme ça. Mais il n'y a rien de spécifique à eux. C'est juste que c'est chronologique, en fait. Enfin, c'est le hasard de l'histoire qui est comme ça.
C'est peut-être pas grave de dire un Tutsi, mais c'est peut-être plus grave de dire les Tutsis sont d'une certaine, ils ont une certaine caractéristique. C'est peut-être pas grave de dire les Juifs, ils existent, ouais, ils sont Juifs. Mais peut-être que ce qui est grave, c'est de dire les Juifs sont. D'où ma phrase, finalement, le problème, est-ce qu'il se situerait pas un petit peu plus dans l'article, le fait de mettre tout le monde dans le même sac? Même si parfois on a envie, même si c'est un petit peu plus naturel, que dans le fait de, d'essayer d'attribuer des caractéristiques. Et finalement, du coup, si on revient à la question du jour, est-ce que les mots peuvent tuer ? Vous avez la réponse, les mots peuvent absolument tuer. Et on devrait peut-être s'interroger sur une autre façon à nous de trop simplifier. Quand on a tendance à trop simplifier, c'est humain, parce qu'on comprend mieux quand c'est plus simple. Mais vous voyez bien que la novlangue, c'est quand même un petit peu dangereux. C'est
Merci. 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 Merci.